montrant ainsi que sauver les autres est un bonheur supérieur à tout. Ceux qui ont conduit des âmes à Christ comprendront ce que je veux dire. Jeunes disciples, marchez dans la vérité et vous serez joyeux tout le long de vos jours. Je crois qu'il y a une différence entre le bonheur et la joie. Le bonheur nous arrive par le moyen des circonstances qui se produisent autour de nous et il peut être atteint aussi par des circonstances. Tandis que la joie subsiste malgré les épreuves, elle jaillit au sein des ténèbres, de nuit comme de jour, au milieu des oppositions et des persécutions. Elle coule sans cesse parce qu'elle est une source qui bouillonne au fond de nos cœurs, source cachée que le monde ne peut voir ni connaître. Le Seigneur donne aux siens une joie permanente s'il marche dans l'obéissance. Elle est sustentée par la parole. Jérémie a dit Jérémie 15, 16 « J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. » Ils mangeaient les paroles de Dieu, et qu'en est-il résulté? Elles ont été la joie et l'allégresse de son cœur. Il nous faut donc chercher cette joie dans la parole et non dans le monde, après cela nous travaillerons pour Christ. Une joie qui ne me presse pas d'aller vers les autres, qui ne me contraint pas de délivrer les pauvres esclaves de la boisson, de visiter les veuves et les orphelins, de m'occuper des écoles du dimanche et d'œuvres chrétiennes, n'est pas digne que je la recherche et ne vient pas d'en haut. Si elle ne m'amène pas à travailler pour le Maître, elle n'est qu'un pur sentiment, et non une divine réalité. La joie dans la persécution. Saint Luc dit Luc 16, 23-24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Le chrétien ne reçoit pas ici-bas sa récompense. Nous devons nous opposer directement au courant que suit le monde. Nous serons critiqués peut-être et obligés d'entrer en conflit avec quelques-uns de nos meilleurs amis si nous vivons en Christ saint. Mais quand nous serons persécutés pour le Maître, une joie constante jaillira du fond de nos cœurs, une joie permanente et abondante que le monde ne peut faire tarir. Si Christ est dans notre âme, nous porterons des fruits. Plus je vis et plus je suis convaincu que les chrétiens sanctifiés ne sont pas appréciés de nos jours, mais que leurs œuvres les suivront et que leur influence sera sentie même lorsqu'ils seront partis de ce monde. Daniel fait pour son Dieu mille fois davantage maintenant que lorsqu'il était captif à Babylone, et Abraham que lorsqu'il dressait ses tentes et son autel dans la plaine. Ils ont encore vécu durant les siècles écoulés depuis, c'est pourquoi il est dit Apocalypse 14, 13 « Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ?»« Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Que le courant de la grâce coule encore quand nous ne serons plus. Si nous sommes persécutés, allons en avant avec courage et notre récompense sera grande. Oh ! Souvenons-nous que le Seigneur Jésus, Créateur des cieux et de la terre, a dit « Ta récompense sera grande ». Il l'appelle grande. Si un de nos amis parlait ainsi, nous pourrions trouver la récompense petite, mais quand c'est le Dieu Tout-Puissant qui donne cette appréciation, combien doit-elle être justement nommée pour ceux qui le servent? Il la tient en réserve, et c'est là un motif de joie si nous sommes réellement ses disciples. Un chrétien abattu n'est pas propre pour l'œuvre de Dieu parce qu'il travaille avec un visage triste. C'est la joie de l'Éternel qui est notre force. Il nous faut une église joyeuse, une telle église foulera l'œuvre de Satan et nous verrons alors l'Évangile pénétrer dans les plus sombres repères, dans les plus misérables réduits, les ivrognes, les joueurs, les femmes de mauvaise vie s'empresseront d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui retarde les progrès du christianisme, c'est notre air abattu et le froncement de nos sourcils. Oh ! Quand tous lient une grande joie, remplissent le cœur des croyants, afin qu'ils éclatent en chants de triomphe jour et nuit. Une église joyeuse a prions pour l'avoir. Et alors nous constaterons des succès. Si nous n'avons pas notre récompense ici-bas, rappelons-nous constamment qu'elle ne nous manquera pas plus tard. Si du temps d'Abraham on avait demandé à ses contemporains quel était le plus grand des hommes, ils auraient dit Enoch et non Abraham. Durant les jours de Moïse, ils auraient dit cet Abraham. Durant ceux des lieux de Daniel, ils auraient nommé Moïse. Du temps du Sauveur, Jean-Baptiste et les apôtres n'étaient point considérés par le monde qui les méprisait, et cependant voyez ce qu'ils sont devenus. De même, nous ne serons pas appréciés peut-être durant notre vie, mais travaillons constamment avec joie. Si cette joie nous fait défaut, disons au Seigneur, Psaume 51, 14 Dieu, Dieu de mon salut. Délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Jésus nous répète encore, Jean 14, 11, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. Et encore, Jean 16, 22, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Je suis si heureux de posséder une joie que le monde ne peut m'ôter, un trésor qu'il ne peut me ravir, que ni les hommes ni les démons n'ont la puissance de me prendre. Personne ne vous ravira votre joie. C'était pendant le second siècle. On amena un martyr devant un roi, qui essaya de lui faire renier Christ, mais cet homme résista avec fermeté. Si tu n'abjures pas, dit le prince, je te bannirai. Vous ne pouvez me bannir, dit le saint homme en souriant, me bannir loin de mon sauveur, car il m'a dit qu'il ne me laisserait point et qu'il ne m'abandonnerait point. Alors je confisquerai tes biens et te les ôterai tous. Reprit le monarque irrité, mes trésors sont en haut et vous ne pouvez les prendre. Eh bien, je te ferai mourir. Ah, dit le martyr, il y a 40 ans que je suis mort. Je suis mort avec Jésus, je suis mort au monde et ma vie est cachée avec Christ en Dieu, vous ne pouvez y toucher. Nous devons donc nous réjouir parce que nous sommes ressuscités avec Christ. Que la persécution et la contradiction viennent, rien ne nous ôtera notre joie. Rappelons-nous que notre récompense sera grande et qu'elle est mise en réserve pour nous jusqu'au jour où celui qui est notre vie apparaîtra et que nous apparaîtrons nous aussi avec lui dans la gloire. Chapitre 4. La puissance et ses obstacles. Le peuple juif limita le sein d'Israël, il irrita, contrista l'esprit et se révolta contre son autorité. Esaïe 63, 10. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint. Et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Mais on peut commettre un péché spécial contre lui que nous allons considérer de près? C'est dans Matthieu 12, 22, qu'il est mentionné pour la première fois. Matthieu 12, 22, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Le péché irrémissible. Matthieu 12, 24, les pharisiens, ayant entendu cela, dirent cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. S'écrièrent les pharisiens après que Jésus eut guéri le démoniaque aveugle et muet. Le Seigneur terminait son argumentation contre eux par cette parole. Matthieu 12, 31, c'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Marc 3, 22, et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent il est possédé de Béelzébul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Le mot Béelzébul désignait le prince des esprits immondes. Ainsi les scribes accusaient le Seigneur, non seulement d'être possédé par un mauvais esprit, mais par un esprit immonde. Le Sauveur leur explique par le moyen d'une parabole, que Satan ne peut chasser Satan, et il termine en disant Marc 3, 28-29, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. » si la parole ne nous donnait pas d'autres explications à ce sujet, bien des ténèbres l'envelopperaient peut-être encore, et nous ne comprendrions pas ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais le verset qui suit jette une pleine lumière sur ceux qui précèdent. Marc 3, 30, Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». J'ai rencontré en ma vie bien des athées, des sceptiques, des déistes et des incrédules, mais jamais nulle part un homme ou une femme qui m'ait dit que Jésus-Christ était possédé d'un esprit immonde. En avez-vous trouvé? Je ne le pense pas. Plusieurs m'ont dit des choses révoltantes contre le Christ, mais je n'ai jamais vu personne se lever et affirmer qu'il était possédé du démon ou qu'il chassait les démons par la puissance du démon. Je ne crois donc pas que quelqu'un puisse dire qu'il a commis le péché contre le Saint-Esprit, à moins d'avoir malicieusement, avec préméditation et ferme décision, dit que Jésus avait en lui un démon et qu'il chassait les démons par cette puissance même. Vous avez peut-être entendu raconter que le Saint-Esprit avait abandonné une personne, qu'il avait contristée et qu'il lui avait résisté, et vous avez dit « elle a commis le péché irrémissible ». Ce qu'il n'est pas. J'admets qu'on puisse résister à l'Esprit de Dieu jusqu'à l'obliger de s'en aller, mais quand cet Esprit a réellement quitté une âme, cette âme n'est plus tourmentée par le sentiment de ses fautes. Le seul fait qu'elle en est encore troublée montre que l'Esprit ne l'a pas abandonnée, car c'est lui seul qui convainc de péché. Satan n'a jamais dit à quelqu'un qu'il est un pécheur, il nous persuade que nous sommes assez bons sans Dieu, en sûreté sans Christ et que nous n'avons nul besoin d'être sauvés. Mais quand un homme est assez réveillé pour comprendre qu'il est un pécheur perdu, vous pouvez être sûr que c'est l'Esprit qui a fait en lui cette œuvre. Si cet Esprit l'avait quitté, il n'éprouverait pas de repentir. Le fait seul qu'une personne désire devenir chrétienne est un signe certain que l'Esprit de Dieu l'attire. Si le péché irrémissible consistait seulement à résister à l'Esprit, nous l'aurions tous commis et il n'y aurait d'espérance pour aucun chrétien. Je suis persuadé qu'il n'existe pas un pasteur, ni un ouvrier du Seigneur, qui n'ait résisté au Saint-Esprit plusieurs fois en sa vie et ne l'ait contristé. Résister donc est une chose, et blasphémer contre l'Esprit en est une autre. Nous devons comparer ces deux péchés d'après les Écritures. Quelques-uns disent « J'ai des pensées blasphématoires, de terribles idées contre Dieu, qui me viennent à l'esprit malgré moi. » Et ils croient que c'est là le péché irrémissible. Les mauvaises pensées. Nous ne pourrons être condamnés pour les mauvaises pensées qui nous arrivent. Si nous les accueillons volontiers, ce serait différent, mais si le démon nous en décoche une comme un dard et que nous disions aussitôt « Seigneur, aide-moi », ce péché ne nous est pas imputé. Qui n'a eu de telles tentations dirigées contre son esprit ou son cœur et n'a été appelé à les combattre? Un vieux théologien a dit « Vous n'êtes pas à blâmer parce que les oiseaux volent sur votre tête, mais seulement si vous les laissez construire leur nid dans vos cheveux, vous êtes coupable si vous ne les chassez pas. » Il en est ainsi des mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit, nous devons les combattre et non leur donner asile. Ces idées ne sont pas la preuve que j'ai commis le péché irrémissible. Si je les aimais et les accueillais, si j'accusais Jésus d'être un blasphémateur, je serais responsable pour m'être rendu coupable d'une grande iniquité. Mais si je dis qu'il est le prince des démons, alors je commets le péché irrémissible. L'ami fidèle, attristèrent le Saint-Esprit, est autre chose que de lui résister? Saint Étienne accusa les Juifs de résister à l'Esprit. Acte 7, 51. Dans tous les temps, le monde lui a opposé la même résistance, son histoire nous le montre, et de nos jours il en fait encore tout autant. Proverbe 27, 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le Saint-Esprit révèle à ce pauvre monde ses fautes, comme un ami doit le faire, et c'est pour cela même que le monde le hait. L'Esprit met la plaie des cœurs à découvert, il les convainc de pécher ou les condamne, et il lutte contre lui. Je crois que bien des gens lui résistent, je crois que de nos jours un grand nombre combattent contre lui. Éphésiens 4, 30-32 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Remarquez ce qui est dit à l'église d'Éphèse. Éphésiens 4, 30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je crois que maintenant l'église chrétienne tout entière attriste le Saint-Esprit. Un grand nombre de croyants d'églises diverses s'étonnent de ce que l'œuvre de Dieu n'est point ravivée. N'attristez pas l'Esprit. Si nous cherchons bien, nous trouverons ce qui attriste l'Esprit, c'est d'un schisme peut-être, ou quelques mauvaises doctrines ou quelques divisions. J'ai remarqué une chose durant mes voyages, c'est que je n'ai jamais vu le Saint-Esprit à l'œuvre là où les enfants de Dieu n'étaient pas d'accord entre eux. Si donc nous désirons qu'il agisse au milieu de nous, commençons par être unis. Que les membres divisés d'une église cherchent immédiatement à se rapprocher pour enlever l'obstacle. Si le pasteur ne peut parvenir à le faire, si ceux des membres qui sont mécontents ne veulent pas entrer dans l'union proposée, il vaut mieux que ce pasteur-là se retire. Un grand nombre d'entre eux perdent leur temps, durant des mois, des années même. Ils ne voient pas de fruits de leur travail et ils n'en verront point parce qu'ils ont une église divisée. Une telle église ne peut croître dans les choses divines, car l'esprit n'agit pas où il y a des divisions. Il faut de nos jours l'esprit d'union parmi les enfants de Dieu, afin que le Seigneur puisse se mettre à l'œuvre. Les amusements mondains. Ce qui attriste encore le Saint-Esprit, c'est la fâcheuse habileté avec laquelle on introduit dans les églises certains amusements. Ce sont des loteries, par exemple, en sorte que si quelqu'un aime le jeu, il n'aura pas besoin d'aller dans des cercles. On y trouve quelquefois des foires, des bazars comme on les appelle. Si même quelqu'un aime les drames, il n'a pas besoin d'aller au théâtre, car certains lieux de culte sont transformés en théâtre, on peut y rester le soir pour jouir du spectacle. Je crois que ces choses attristent le Saint-Esprit. Quand nous abaissons l'Église au niveau du monde, nous affligeons cet esprit et nous le perdons. Mais quelqu'un dira, si nous prenons cette position élevée dont vous parlez, bien des personnes abandonneront nos églises. Je le crois aussi, mais plus tôt elles s'en retireront et mieux cela vaudra. Le monde a envahi l'Église comme un fleuve. On y trouve même des chœurs formés de gens inconvertis qui chantent pour l'assemblée. Avoir la pensée d'employer un inconverti pour chanter les louanges de Dieu. Il n'y a pas fort longtemps que j'ai entendu parler d'une paroisse qui avait un chœur formé de gens du monde. Le pasteur, ayant aperçu quelque chose qui ne lui plaisait pas, en dit un mot au chef d'orchestre qui lui répondit « Vous êtes là pour les affaires de votre église et moi pour mes propres affaires. Vous ne pouvez attendre que le Saint-Esprit se mette à l'œuvre dans une pareille église. Les choristes convertis. 1 Corinthiens 14, 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ne serons-nous pas aussi des barbares si nous avons des chœurs qui chantent dans une langue inconnue? Je suis allé dans des églises où j'ai entendu chanter un chœur 5 ou 10 minutes sans comprendre un seul mot. Durant tout ce temps, les gens avaient des regards distraits. Peut-être quelques personnes, très passionnées de belle musique, chercheront à introduire l'opéra dans la maison de Dieu. L'église aura donc des airs d'opéra et le peuple nonchalant et endormi ne prendra aucune part au chant. On loue des hommes inconvertis, impies même, qui apportent leur journal, le déposent sur l'orgue pour le reprendre et le lire dès que le pasteur commence son sermon, s'ils peuvent toutefois se tenir éveillés. Et le pasteur s'étonne ensuite de ce que Dieu ne ravive pas son œuvre, de ce que lui-même n'a plus d'influence sur ses auditeurs, de ce que les gens ne viennent pas en foule dans le lieu de culte au lieu de courir après les amusements du monde. Le mal vient de ce que nous ne nous sommes pas maintenus à la hauteur de notre position et avons ainsi attristé le Saint-Esprit. Un seul acte de puissance qui vienne de Dieu est plus précieux que tout ce que produisent nos moyens artificiels. Ce que l'Église doit faire maintenant, c'est de s'humilier dans la poussière, en confessant son péché et en se séparant du monde. Vous verrez alors si nous manquons de puissance envers Dieu et envers les hommes. Qu'est-ce que le succès ? L'Évangile n'a pas perdu sa puissance, il en a tout autant aujourd'hui qu'il n'en eut jamais. Nous n'avons pas besoin de doctrine nouvelle, c'est toujours le vieil Évangile que la vieille puissance du Saint-Esprit accompagne. Si les églises voulaient seulement confesser leurs infidélités et y renoncer, si elles élevaient leur profession au lieu d'en rabaisser le niveau et priaient pour obtenir une vie spirituelle plus sainte, alors la crainte du Seigneur saisirait tous ceux qui nous entourent. Quand Jacob tourna sa face vers Bethel et détruisit tous les dieux des étrangers, la terreur de Dieu tomba sur tous ceux qui demeuraient là. Genèse 35, 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. De même, lorsque les chrétiens se tournent vers le Seigneur et cessent d'attrister le Saint-Esprit, afin qu'il puisse accomplir son œuvre, nous avons des conversions continuellement et des âmes sont amenées à Christ chaque jour. Qu'il est affligeant le spectacle désolé qu'offre la chrétienté. Il y a si peu de vie spirituelle et de puissance spirituelle. Un si grand nombre ne désirent pas même la puissance de l'esprit dont nous parlons. Ils aspirent à posséder une puissance intellectuelle, à avoir dans leur lieu de culte des cœurs qui attirent, quelques prédicateurs distingués qui attirent, sans prendre souci de sauver les âmes. Pour eux, ceci n'est pas la question. Il cherche à remplir les bancs d'auditeurs, à faire venir la bonne société, les gens comme il faut du monde, des personnes qu'on rencontre un soir au théâtre et le lendemain à l'opéra. Il n'aime pas les réunions de prière, il les déteste même. Si le pasteur leur fait des conférences ou des sermons, cela leur suffit. Il y a quelque temps que je dis à un homme : comment marche votre église ? Oh ! C'est splendide, me répondit-il.